depuis Kinshasa. Je suis tout à fait d'accord.
Moi, c'est André de Mbujimayi au Kassai Oriental. Je réfute totalement ce qui se
passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et bonne année 2013. Nous sommes très heureux de commencer ensemble cette année avec ce tout premier numéro des paroles aux auditeurs. En matière de la population et de l'habitat, la RDC ne dispose pas des statistiques fiables et actualisées portant sur toutes les entités politico-administratives du pays. Les statistiques disponibles dans ces domaines datent du dernier et unique recensement scientifique de juillet 1984. Voilà ce qui justifie l'organisation de la prochaine opération de recensement envisagée par le gouvernement congolais entre 2013 et 2015. Notons que le recensement général de la population avait fait l'objet d'une journée parlementaire les jeudi 8 novembre dernier à l'Assemblée nationale, où les experts invités ont entretenu les députés nationaux sur l'importance du recensement mais aussi de l'habitat. Pour vous, quel sera l'impact de cette opération de recensement de la population à travers le pays? Nous en parlons avec le professeur Paul Denis Zita, coordonnateur national du Bureau central de recensement. J.R. Lungembo, Titi Mputu, Billy Van Lutumba et Jean-Claude Siala assurent la réalisation de cette émission présentée par Pierrot et la Meiji. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Meiji.
Nous sommes ensemble pour près de 57 minutes consacrées, 57 minutes bien sûr consacrées au recensement général de la population annoncé par le gouvernement de la RDC entre 2013 et 2015. L'importance de ces recensements et aussi son impact, comme je venais de le dire. Tout à l'heure, nous sommes en train de recevoir dans ce studio le professeur Paul Denis Zita, qui est le coordonnateur national du Bureau central du recensement. C'est avec lui que nous allons en long et en large commenter ces sujets. Vous allez peut-être poser des questions, mais votre aussi contribution. Tout cela, c'est les bienvenus dans cette émission. Professeur Paul Zita, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation pour commenter ces sujets avec les auditeurs des Radio Capi et surtout bonne année 2013.
Je vous réitère ces vœux de bonheur, de santé, de prospérité pour l'an 2013.
Voilà. Pourquoi avoir pensé au recensement de la population en cette période?
Bon, c'est extrêmement important parce que depuis très longtemps, il n'y a pas eu de recensement en République démocratique du Congo. Ou plus précisément, le dernier recensement a été réalisé en 1984. Donc ça fait de cela plus de 28 ans, bientôt on aura fait 29 ans. Et en Afrique, nous sommes pratiquement le dernier pays. En fait, derrière nous, il y a la Somalie. Mais la Somalie connaît la situation que vous connaissez. Et donc, en Afrique, nous sommes au bas niveau et il est important, un grand pays comme la RDC, il est important qu'on puisse redresser la situation, qu'on puisse se placer dans une situation plus intéressante. Et cela est extrêmement important parce que pour pouvoir réaliser la planification et au niveau social et au niveau économique et au niveau des infrastructures, il faut disposer des données de population, qu'on connaisse où se trouve la population, quel est son effectif, qu'est-ce que cette population fait, quelles sont ses attentes, quels sont ses besoins, et qu'on puisse planifier le développement national en tenant compte de toutes ces informations-là. Et donc, c'est très important pour le moment que nous puissions réaliser le plus rapidement possible ces recensements généraux de la population et de l'habitat.
Mais plusieurs fois, on a vu que ce soit par exemple le UNFPA ou soit l'UNICEF, on voit des fois des enquêtes qui sont de recensement ou des enquêtes qui sont menées de manière sporadique de gauche à droite. Quel peut être le rôle de toutes ces autres données là dans le cadre d'un recensement général?
Bon, effectivement, il y a plusieurs enquêtes qui sont effectuées dans le pays. Ces enquêtes posent plusieurs problèmes. D'abord, ces enquêtes ne renseignent que sur la situation des provinces. Or, les provinces de la RDC correspondent dans la réalité à des petits États. Si vous prenez un pays comme le Bénin, vous prenez un pays comme le Togo, c'est une province de la RDC. Même le Cameroun, qui est un grand pays, ça fait 18 millions d'habitants. Et donc, ça fait à peu près le Katanga seulement. Et donc, on n'a pas seulement besoin de données au niveau de la province, il faut qu'on sache à quel niveau, dans quel territoire, dans quel secteur, dans quelle agglomération se trouvent les problèmes qui est identifié. Et la situation des territoires, la situation des secteurs n'est pas du tout donnée par les enquêtes. Seul le recensement peut donner cette situation. Prenons un exemple très simple. Si on se rend compte que dans le Bas-Congo, on a un niveau de mortalité des enfants de moins de 5 ans qui est très élevé. Mais la situation n'est pas la même partout au niveau de la province. Si vous prenez des bas-fleuves, vous prenez un territoire du bas-fleuve, la situation peut être totalement différente de la situation qu'on retrouve dans un autre territoire de cataractes, par exemple. Et donc, il est important pour pouvoir intervenir efficacement, en jargon, on peut dire, pour le ciblage des politiques, il est important qu'on sache dans quel territoire le problème se pose avec le plus d'acuité, de telle sorte qu'on puisse intervenir plus massivement, de manière plus ciblée dans ces territoires-là, pendant que les territoires qui se retrouvent peut-être dans une situation plus intéressante ne reçoivent pas la même action que l'action qui est menée au niveau des territoires où il se pose le plus de problèmes. Donc c'est ça. Donc en fait, seul le recensement permet le vrai ciblage des politiques d'action qui sont menées dans le pays. Les enquêtes renseignent, donnent des renseignements un peu généraux et ne remplacent pas du tout le recensement. Peut-être un deuxième problème qui se pose, c'est que ces enquêtes auxquelles vous faisiez allusion tout à l'heure sont réalisées sur une base de sondage, ce qu'on appelle une base. Parce que pour établir une enquête, pour réaliser une enquête, on a besoin de constituer l'échantillon. Il faut un échantillon. Et il faut que cet échantillon soit le plus représentatif possible de la situation de la population sur laquelle on veut travailler. Quelle est cette population? C'est la population qui était là en 1984. Donc, vous voyez, toutes ces enquêtes qui sont réalisées maintenant sont basées sur les résultats de 1984 qui aujourd'hui sont totalement dépassés. Et donc, en fait, on peut se douter de la qualité des résultats qui sont donnés par ces enquêtes. Cela signifie quoi? Cela signifie que maintenant, il faut absolument renouveler la base sur laquelle on peut bâtir les enquêtes, de telle sorte que les résultats qu'on obtient à partir des enquêtes soient des résultats réellement représentatifs de la population, et donc des résultats qui renseignent sur la situation réelle de la population actuellement.
Avant qu'on écoute les auditeurs qui sont en ligne, au niveau de, quand on procède au recensement général, qu'est-ce qu'on fait au juste? Juste le nombre de gens dans un ménage, c'est quoi aussi? C'est le problème de leurs revenus. Comment on structure les opérations du recensement général?
Bon, ça fait deux questions. Répondons peut-être d'abord à la première question. Quelles sont les données les plus intéressantes dans le cas d'un recensement général de la population et de l'habitat? D'abord, il faut savoir qu'un recensement, c'est un ensemble d'opérations qui ont pour but de renseigner sur la situation économique, donc fournir des données économiques d'abord, ensuite des données démographiques, données de population, et ensuite des données sociales. Donc ce sont les trois grandes catégories de renseignements que fournit le recensement général de la population et de l'habitat. Donc sur le plan économique, vous avez compris quelles sont les activités, les gens font quoi, ils vivent comment, quels sont leurs revenus, comment. Donc même pour le climat des affaires, c'est une situation intéressante, parce que si vous voulez investir, vous prenez tout simplement les résultats des données du recensement et vous regardez ceux qui travaillent actuellement. Ils travaillent essentiellement dans quel domaine? Quels sont les domaines sur lesquels il n'y a pas tellement
d'investissement.
D'investissement. Et vous allez investir là où il y a le moins d'opérateurs économiques. Mm-hmm. Si vous allez où il y a beaucoup d'opérateurs économiques, qu'est-ce qui va se passer? Vous risquez d'aboutir à un suicide, ce qu'on appelle un suicide économique. C'est-à-dire que tout le monde faisait la même chose,
il y a neutralisation. Voilà. Et puis on neutralise les
exactement,
activités.
On se neutralise mutuellement. Donc il faut aller là où il y a le moins de gens possible. Là où on a le plus d'opportunités d'intervention. Mm-hmm. Et ça c'est au niveau économique. Donc mm-hmm. au niveau de la population, vous savez que diriger, c'est prévoir. Il faut pouvoir gérer la population. Pour pouvoir la gérer correctement, il faut au minimum connaître quel est l'effectif de la population mm-hmm. que vous gérez. Quel est, comment elle se compose? Combien de personnes de sexe masculin, combien de personnes de sexe féminin, quel est l'effectif des adultes, quel est l'effectif des enfants. Et vous savez maintenant, avec l'allongement de la durée de la vie, il y a de plus en plus de personnes qui sont âgées. Donc, quel est l'effectif de la population du troisième âge, si on peut parler ainsi? Parce mm-hmm. qu'il faut des politiques sociales spécifiques pour chaque catégorie. Les enfants, c'est surtout la pédiatrie, si je prends le cas de la médecine, mm-hmm. il faut surtout insister sur la pédiatrie. Pour les personnes adultes, c'est probablement la gynécologie. Et pour les adultes, autre chose, c'est la prise en charge des personnes qui sont dans les homes. C'est la médecine du troisième âge. C'est mm-hmm. encore tout à fait autre chose. Mm-hmm. Et donc, on a besoin de connaître dans chaque catégorie quel est l'effectif de la population pour que les infrastructures soient ajustées en tenant compte de la situation de la population.
Et sur le plan social?
Le plan social, peut-être le cas le plus simple, prenons le cas de l'habitat. Mm-hmm. Il faut savoir qui ont un habitat décent. D'abord, que faut-il entendre par habitat décent? Mm-hmm. C'est une très bonne question. Pour les pays, qu'est-ce qu'on entend par habitat décent? Si on prend le cas de l'Europe, des pays développés, on dira, il faut une chambre, un enfant. Bon, ici, c'est très difficile d'avoir une chambre, un enfant. Donc, il faut un peu plus. Bon, ok, mais si on a plus de 3 enfants dans une même chambre, ça commence à poser un problème. Donc, il faut adapter la situation du logement, donc l'offre dans le domaine du logement, à la situation, aux effectifs mm-hmm. de la population du territoire dont il s'agit. Bon, peut-être on peut...
On va évoluer. Peut-être que la question sur les structures, on va la garder. Okay. Les temps qu'on écoute les auditeurs, on va revenir là-dessus. Maître Machaka, vous êtes à Lubumbashi, Marcel est à Kisangani, Malonga est dans le Bandundu, 081-890-4339. C'est le numéro d'appel pour intervenir en direct dans cette émission, consacrée bien sûr au recensement général de la population.
Parole aux auditeurs.
Maître Machaka, vous êtes en ligne de Lubumbashi, bonjour.
Bonjour, monsieur JR, bonjour à l'invité, bonjour à tous les auditeurs de la Radio Capi.
C'est Pierrot et la Mégie au micro, Maître
Excusez-moi,
Machaka.
Excusez-moi, monsieur Pierrot, bonjour, monsieur Pierrot. Oui, c'est vos voix se confondent souvent.
Merci beaucoup, on vous écoute. Nous faisons le point ensemble. Vous avez suivi l'introduction avec notre invité, mais pour vous, quel peut être aujourd'hui l'impact si jamais on procédait à ces recensements généraux de la population, Maître?
Merci beaucoup, monsieur Pierrot, de m'avoir accordé cette opportunité d'intervenir sur la première émission de l'année 2013.
Merci.
Vous savez, en suivant notre invité là-bas, monsieur Pierrot, toutes les théories qu'il est en train de développer, là, sont des théories d'une importance capitale. Mais je me demande, nos autorités à nous, qu'est-ce qu'elles font, monsieur Pierrot, puisque aujourd'hui, les recensements, c'est une opération qui devrait commencer au début. Aujourd'hui, c'est comme quelqu'un qui construit une maison. Après avoir construit ces ménages, il se souvient que non, je n'avais pas mis la fondation à ma maison. Puisque comment est-ce que vous pouvez diriger sans savoir le nombre total de la population que vous devez diriger? On se demande si dans notre pays, nos autorités en tout cas, ils ont des conseillers ou bien ils connaissent ce qu'ils pouvaient faire, mais ils sont nécessairement en train de faire semblant. Puisque toutes les théories que notre invité est en train de développer là, sont des théories d'une importance capitale pour un vrai dirigeant. Même chez nous à la maison, si vous êtes un responsable, avant de planifier quoi que ce soit, vous devez connaître d'abord les personnes à votre charge. C'est à ce moment-là que vous saurez que non, comme j'ai autant d'argent et j'ai autant de personnes que je dois supporter, autant de personnes se trouvent à l'école maternelle, autant à l'école primaire, autant à l'université, c'est à ce moment-là que vous saurez comment gérer ces gens-là dans votre maison. Mais aujourd'hui, notre gouvernement font des sourdes oreilles. C'est en dernière minute qu'il vient maintenant de se souvenir qu'il faut faire les recensements. Le recensement est pratique. C'est une opération capitale, Monsieur Pierrot,
oui,
pour le développement d'un pays. Voilà. Ça va permettre à nos autorités de se rendre compte de toutes les réalités du pays et prendre les précautions afin que la gestion soit bonne dans notre pays, Monsieur Pierrot.
Merci, Maître Machac. Mais du moins, vous êtes très inquiet. Vous pensez que cela intervient un peu tard. Il fallait peut-être penser au recensement un peu plus en amont. Mais du moins, quand même, les bases sont jetées. On va voir avec notre invité, d'ailleurs, où en sommes-nous aujourd'hui avec ces projets de recensement. Merci beaucoup. Mais vous pensez que c'est très capital pour planifier le développement du pays. Marcel, vous êtes à Kisangani, en province orientale. Bonjour.
Bonjour Pierrot, je préfère surtout qu'on m'appelle Marcel.
On a des petits soucis avec votre ligne téléphonique, Marcel. On ne parvient pas bien à vous entendre là. Apparemment, il y a beaucoup de bruit tout autour de vous. Mais quel est votre point de vue là? Mais on vous écoute un peu difficilement, Marcel.
Ok, merci beaucoup, Monsieur Pierrot. Je pense que la question que nous abordons aujourd'hui relative au recensement général est une question d'une importance capitale. Mais je voudrais dégager par là un problème majeur. Et ce problème est lié, en fait, à la responsabilité du gouvernement. Puisque, vous savez, M. Pérot, comme mon co-intervenant de Lubumbashi venait de souligner, il est difficile de faire une chose sans l'avoir préalable, le planification, en fait, liée à cette chose-là. Puisque je me demande si, dans 10, 15 ans, on n'a jamais recensé, mais le programme que fait le gouvernement, cette planification-là, valent à quoi? Ça, c'est une chose. Maintenant, défaut de la responsabilité du gouvernement, ça répercute maintenant sur la citoyenneté de la population qui est censée, en fait, être soumise au recensement. Puisqu'en ce jour, on ne sait pas aller déclarer son enfant au niveau de la commune, tout simplement parce que ça n'a jamais existé depuis 10, 15 ans, 20 ans environ. Et maintenant, la population est là, assise à la maison, avec tous ses enfants. Et je me demande aujourd'hui, même si on peut recenser, ça peut être qu'une unique fois, puisque dans une ou deux ans après, on ne saura plus revenir. Maintenant, les taux de natalité qui surviendront après que l'on ait recensé, tel que prévu en 2013, seront en fait ignorés. Ce n'est pas dans les habitudes de notre gouvernement. Mais moi, personnellement, j'approuve ce recensement, puisque sans cela, aucune diagnostic réel ne pourra obtenir un résultat satisfaisant. Et surtout dans la politique du gouvernement qui est censé maîtriser la situation réelle
de la
population dont il a la charge de diriger, de protéger et en fait de provenir à ses besoins.
Merci, merci beaucoup Marcel. On retient deux choses. Hein. D'ailleurs, vous êtes très inquiet. Vous dites qu'il n'y a pas eu des données depuis 84. Mais comment alors les programmes de gouvernement sont-ils élaborés? C'est sur base de quelles données? Ça, c'est votre inquiétude. Mais vous dites au moins que si jamais on procédait à ces recensements 2013-2015 et que deux ans, trois ans après, qu'il n'y ait pas encore de recensement, quelles seront les données par rapport à leur actualisation? Et là, on pourra demander à notre invité, quand on va lui accorder la parole, bien sûr, hein, l'intervalle entre deux recensements. Peut-être c'est ça le souci que vous avez. Merci beaucoup Marcel de Kisangani. Malonga, vous êtes au Bandundu. Bonjour.
Bonjour Monsieur Paolo et bonne année.
Merci beaucoup. Vous êtes c'est Bandunduville, hein, c'est là où vous êtes. Hein?
Oui, à Bandunduville.
À Bandunduville, merci beaucoup. On vous écoute Malonga.
Ok, merci beaucoup. Bon, suivant ce que nous traitons, pour la première fois de 2013, oui, le recensement est bon. Mais ce que je vais demander à notre invité et au ministère des Cités, lorsque tous les paramètres de réaliser ce recensement sont déjà coordonnés, puisque nous, les Congolais, nous sommes déjà habitués à reporter et à amender toutes choses en cours de ce fonctionnement. Nous voyons ici et nous connaissons souvent que lorsque la CENI et la CI à l'époque faisaient ce fonctionnement, vous voyez qu'en cours de son action, vous verrez quelqu'un ou bien quelques-uns surtout, je ne me pose pas, mais c'est mon constat, vous verrez que l'opposition, ou bien la majorité, ou bien l'indépendant, va intercaler ce fonctionnement qui était bon, qui va servir le pays avant, mais vous verrez que quelqu'un va s'interposer pour mettre cette action bon qui va éclairer l'opinion en calme. Donc c'est ce que je vais demander à l'invité. Il faut qu'il nous précise, après ce recensement général, après combien de temps encore qu'on va organiser des recensements. Puisque le recensement ne se fait pas une fois, non. Ça se fait après une période comme ça. Il va nous préciser, comme nous allons commencer encore le recensement dans notre pays depuis 1984 jusqu'à aujourd'hui, il y a longtemps. Mais je suis aussi à la région, vous nous précisez que nous sommes déjà 75 millions. En fonction de quoi ce chiffre? Bon, nous acceptons. Mais nous voulons assez que le l'invité nous précise, après ce recensement général, il y aura encore recensement.
Quelle période,
après l'année, voilà. Et jusqu'à la fin de notre vie ici sur la Terre.
Merci,
Malonga. Nous ne pouvons pas accepter vraiment de vivre comme ça, sans chiffres, sans se connaître. Ça, c'est quelle politique qu'on va faire au Congo.
Voilà, merci beaucoup. Tout le monde est très inquiet qu'on n'aille pas. D'ailleurs, l'invité l'a dit, par rapport à notre position sur le continent ou à travers le monde, ce n'est pas normal. Mais vous êtes très inquiet. D'abord, la première question que vous posez à notre invité, c'est de savoir si tous les paramètres sont au point aujourd'hui pour que le recensement puisse débuter en 2013. On est habitué à reporter plusieurs fois des opérations et aussi l'intervalle entre deux recensements. On va écouter Ernest qui est à Matadi et Edgar de Kananga. On revient au professeur. Professeur Paul Denis Ita pour répondre à ces préoccupations des auditeurs. Ernest, bonjour.
Bonjour, Pierrot.
Vous êtes à Matadi, dans la province de Bakongo. On vous écoute.
Merci pour m'associer à ce premier numéro. Les meilleurs voeux à tout le monde là-bas.
Merci.
Nous considérons la RDC comme un pour-tout où on ne sait pas combien de Congolais vivent dans ce pays. Combien d'étrangers sont venus habiter ce pays, et lorsqu'on organise les élections, on nous dit plus ou moins 75 millions d'habitants, mais c'est moins de 30 millions qui participent à ces opérations. Donc, rien qu'à ce niveau-là, on ne sait pas combien de Congolais doivent donner du pouvoir à nos autorités. Et aussi, le recensement, c'est une action à soutenir. Mais, lorsqu'on n'a pas les éléments de recensement, d'une façon régulière, on ne sait pas combien d'instances nous avons, combien de cas de décès, combien de mouvements internes, de déplacements, des gens qui quittent ça, ils ne pouvaient pas pour tout ça. Tous ces mouvements, dès qu'on maîtrise ces données, le gouvernement aura à projeter une politique pour l'alimentation, une politique pour les infrastructures scolaires, pour la santé, et je crois que ce sera une politique équilibrée pour la gestion de la santé publique. Sinon, on va naviguer à vie et on ne sait pas ce qu'on doit faire. Et en fin de compte, on se retrouve qu'avec trois personnes qui assistent dans le pays, alors que nous sommes des milliers. Donc, nous soutenons l'action de la santé publique. Et je propose que le ministère de plan, il y ait une cellule qui doit normalement, peut-être en 5 ans, chaque 5 ans, qu'il y ait révision du fichier pour savoir combien de naissances qu'on a eues. Et sinon, si on ne fait pas ça, dans la technique, comme quelqu'un vient de dire là, on commence l'opération, quelque temps on arrive dans un point où l'accès est difficile, on va simplement se poser et projeter les chiffres, alors que ça ne sera pas la réalité du terrain.
Merci. Voilà, Ernest. Merci beaucoup, Ernest. Vous pensez d'abord, vous avez dit, la maîtrise des données peut conduire aussi à une bonne définition de la définition d'une bonne politique. S'il faudrait qu'on ait au niveau du ministère du plan une cellule qui doit s'occuper de la révision du fichier chaque 5 ans et aussi ces problèmes de l'accessibilité dans certains milieux, allons-nous vraiment arriver avec ces recensements jusque partout à travers le pays? On termine avec vous cette première partie. Edgar, vous êtes à Kananga, au Kasai-Occidental. Bonjour, Edgar. Edgar, vous êtes en ligne, bonjour. Voilà, on a perdu Edgar. Nous allons revenir dans ce studio. Je rappelle à nos auditeurs que nous faisons le point sur les projets de recensement. Le gouvernement congolais l'a annoncé entre 2013 et 2015. Pour vous, auditeurs, quel sera l'impact de ces recensements? Vous êtes nombreux à vouloir réagir dans cette émission qui reçoit le professeur Paul Denis Zita, qui est le coordonnateur national. Bien sûr, j'ai tenté de le dire, il est le coordonnateur national du Bureau central de recensement.
Parole aux auditeurs.
Professeur, vous avez suivi nos auditeurs. On peut regrouper leurs inquiétudes, je peux dire, en deux ou trois points. Il y a, d'abord, tous sont unanimes. Ils saluent le fait qu'on puisse avoir un recensement. C'est très important. Chacun est d'accord pour ça. Mais l'inquiétude, c'est de savoir, va-t-on reporter, comme d'habitude dans notre pays, on reporte les opérations, ils ont de l'exemple de la CI. Est-ce qu'on va commencer effectivement en 2013? Tous les éléments sont-ils réunis aujourd'hui pour que ces recensements commencent? C'est la première inquiétude, la première question, disons. L'autre question, c'est plus technique, pour savoir en quel intervalle on peut avoir entre deux recensements. Est-ce qu'on va continuer à recenser? Et la question que moi je vais ajouter, c'est par rapport au fonds nécessaire pour ces recensements. À combien s'élève le fonds? Est-ce qu'ils sont disponibles? C'est financé par l'extérieur? Voilà un peu les trois grandes préoccupations, on peut résumer ici.
Oui, ça fait effectivement plusieurs questions qui sont posées. D'abord, la première question. Moi, je considérais peut-être comme première question celle qui consistait à savoir, mais l'effectif de 75 millions dont on parle, si souvent, ça vient d'où? On part tout simplement de 1984. En 1984, on avait trouvé 30 millions de personnes. Mmh. Et compte tenu de cet effectif de départ, on suppose, c'est ce qui a été observé en 1984, le taux d'accroissement de la population congolaise était de 2,9%. Mmh. Et donc, si on prend, on applique le taux de 2,9% à l'effectif des 30 millions qu'on avait obtenu en 1984, on obtient une estimation de la population pour les années suivantes. Mmh. Et c'est donc en prolongeant jusqu'à maintenant qu'on obtient les chiffres de 75 millions ou à peu près dont on parle le plus souvent. Mmh. Alors, cela soulève déjà un premier problème. Le problème est que les perspectives démographiques ne sont valables que pour une période maximale de 15 ans. Or, maintenant, on est au-delà de 20 ans, 28, 29 ans même maintenant. Mm-hmm. Et donc, on est en train de travailler. Et les auditeurs ont eu tout à fait raison de souligner le fait que... J'aime bien l'expression qui a été utilisée par l'intervenant de Lubumbashi. C'est comme si on a une maison qui n'a pas de fondation. Et donc, on est en train de faire la planification en utilisant des chiffres qui, en fait, sont dépassés depuis... très longtemps. Et donc, on arrive finalement à des résultats qui ne sont pas nécessairement crédibles. Mmh. Maintenant, pour revenir aux différentes questions qui ont été posées, est-ce qu'on va reporter? Est-ce que les travaux ont commencé? Les travaux ont commencé. Peut-être une petite rectification. Je suis le coordinateur technique du bureau central du recensement. Mmh. Et donc, durant l'année 2012, nous avons réalisé ce qu'on peut appeler la phase préliminaire du recensement. Il y a quatre phases pour la préparation des recensements. Il y a la phase préliminaire où on met en place les organes, on met en place la base légale, on cherche les financements et on met en fait les structures qui vont pouvoir contribuer à la réalisation des activités du recensement. Mmh. La deuxième étape, celle que nous allons commencer, qui commence donc en fait aujourd'hui, c'est la phase préparatoire. Durant cette phase préparatoire, on réalise essentiellement deux grandes activités. On réalise les travaux cartographiques. Il faut renouveler les cartes du pays. Vous vous rendez compte, les cartes de notre pays, ce sont des cartes qui datent d'il y a déjà plus de 20 ans. Or, il y a eu des guerres, il y a eu des déplacements de population, et il y a eu des décès, il y a eu des mouvements de part et d'autre. Donc, la cartographie doit être renouvelée. C'est ce que nous commençons à faire à partir...
C'est dans la phase préparatoire.
C'est dans la phase préparatoire. Il y a les travaux cartographiques et ensuite il y a le recensement pilote. Mm-hmm. C'est quoi le recensement pilote? On prend quelques zones, quelques régions de la RDC où on a déjà réalisé les travaux cartographiques et on teste l'exécution du dénombrement exhaustif. En fait, c'est la répétition générale avant la réalisation du recensement proprement dit. Et la troisième phase, c'est donc la collecte des données dans le ménage, c'est le recensement en tant que tel. Et la quatrième phase, c'est la phase post-censitaire où on s'assure que les données qui ont été collectées pendant la troisième phase sont bonnes, sont correctes, sont complètes. Et puis, on analyse, on publie et on fait des propositions concrètes pour l'amélioration des programmes d'action, des programmes de développement. Donc voilà les quatre phases. Maintenant, on peut dire que la première phase est globalement terminée, celle qui consistait à mettre en place les structures. Donc par exemple, la Commission nationale du recensement est en place, la Commission technique du recensement est en place aussi, le bureau central du recensement, donc en fait la cheville ouvrière qui va pouvoir conduire ce recensement général de la population de l'habitat, cette structure est en place aussi. Donc maintenant, nous acheminons vers les débuts des travaux cartographiques. Alors, vous imaginez que lorsqu'on a déjà fait une année dans une telle activité, c'est difficile de pouvoir dire que maintenant on abandonne tout ça et qu'on... Non, nous nous trouvons dans une situation où nous ne pouvons plus reculer. Il faut absolument continuer et il faut terminer l'opération que nous avons commencée. Donc moi personnellement, je ne pense pas du tout qu'il y aura un report, mais il faut pouvoir réaliser le recensement le plus rapidement possible. Ça correspond à une attente et du gouvernement et de la population et de nous tous qui sommes en train de parler.
Et voilà, combien d'argent faudrait-il pour réussir le recensement?
Bon, et ça représente effectivement un recensement toujours coûté un peu cher. Dans le monde, ça varie autour de 2 à 3 dollars par personne. Dans le cas de la RDC, les estimations, le budget que nous avons établi donne un chiffre de 137 millions de dollars américains. C'est un peu moins, bon, si on a 75 millions de personnes, comme le disait l'un des auditeurs de tout à l'heure, c'est moins de 2 dollars par personne. Et donc, on est tout à fait dans la fourchette qu'on retrouve généralement dans les différents pays qui ont fait un recensement.
Mais lors de votre intervention à l'Assemblée nationale, c'était le 8 novembre dernier, vous avez appelé le gouvernement à mobiliser ces fonds. C'est peut-être là où réside le problème. S'il y a les auditeurs qui sont inquiets par rapport au problème de report, c'est en termes d'argent. Vous êtes déjà en cours de route, quelque part on dit les budgets fait défaut, et dès que le budget fait défaut, tout de suite ça va bousculer aussi la planification, et c'est ça peut-être l'inquiétude. Mais est-ce que vous êtes sûr que ces fonds vont être mobilisés à temps pour que les opérations ne puissent pas connaître des petites perturbations?
Bon, il faut dire tout de suite que c'est pas moi qui décide, mais la première réponse, c'est que dans un pays comme le nôtre, trouver 140 millions, c'est pas impossible. Le gouvernement peut très bien trouver les 140 millions dont on a besoin pour pouvoir réaliser le recensement général de la population de l'habitat. Maintenant, il n'y a pas que le gouvernement qui contribue. Il y a tout un dynamisme qui se construit autour de l'exécution des travaux du recensement général de la population de l'habitat. D'abord, l'UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la population, a décidé d'accompagner le gouvernement dans cet effort. Tous les systèmes des nations, toutes les agences du système des Nations Unies, le PNUD, l'UNICEF, le ONI Habitat, toutes ces agences ont décidé de considérer que l'exécution du recensement est une activité qui intéresse le système des Nations Unies de façon générale. À côté de ça, il y a la Banque africaine de développement qui vient de faire sa table ronde pour la mise en place d'une stratégie d'intervention en République démocratique du Congo. Dans les propositions qui ont été retenues, il y a aussi la participation au financement du recensement général de la population. Et il y a la coopération bilatérale qu'il faut explorer. Et donc, Même si aujourd'hui, les 142 millions ne sont pas logés dans un compte de façon stricte en train de dormir, mais il y a plusieurs institutions qui sont d'accord d'accompagner le gouvernement dans cet effort qui consiste à réaliser le recensement général de la population et de l'habitat. Et vous savez que quand il y a eu l'adoption du budget au Parlement, de l'année passée, le recensement a été retenu parmi les activités qui doivent être réalisées.
Oui.
Et cette année, dans le budget de cette année, il y a un fonds qui est réservé, il y a une ligne qui est réservée à l'exécution du recensement général de la population. Et donc, il y a tout ce dynamisme qui est en route et qui fait que ce serait difficile d'imaginer que le recensement n'ait pas lieu. Et puis, je crois que tout le monde a compris que c'est une opération d'une importance capitale, qu'on ne peut plus louper. Il y a tellement de personnes qui se sont levées pour que le recensement se fasse, qu'on ne peut que imaginer que ça va se réaliser dans les délais qui ont été retenus.
Voilà, avant d'écouter les autres auditeurs, il y a deux préoccupations. L'une va être répondue maintenant, l'autre, nous allons la garder vers la fin de l'émission, parce qu'il y a les considérations politiques. C'est dans le sens où 2013, 2015, 2016, ça va être la période des élections. Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir des frictions entre la révision du fichier électoral, les opérations des recensements sur les plans politique, on connaît les débats politiques dans notre pays, comment tout cela peut être géré, vous allez préparer les réponses à fin pour cette question, mais la question tout de suite, c'est par rapport aux acteurs sur terrain par exemple, est-ce que les agents seront recrutés, comment on en prend les gens de Kinshasa, on les envoie en province, on utilise les gens localement dans leur milieu qui connaissent le problème qui se pose, qui connaissent la population, qui peuvent se déplacer facilement, parce qu'il y a un auditeur de Matadi qui s'est inquiété par rapport à l'accessibilité des milieux, qu'on dise non, les agents du recensement ne sont pas arrivés dans telle localité parce qu'il y a l'accessibilité, où est-ce qu'on va utiliser les gens qui sont dans ces milieux-là pour mener ces opérations.
Oui, bon, d'abord, peut-être avant de répondre à cette question, expédions une question qui était déjà en l'air, mais à laquelle il y a une réponse très courte. Bon, le prochain recensement, c'est quand?
Vous avez parlé de 15 ans?
Non, c'est tous les 10 ans.
Les
recommandations, c'est une fois tous les 10 ans. Donc, si on le fait maintenant, le prochain, il faudrait que ce soit en 2023-2024. Alors, maintenant, par rapport au recrutement des agents recenseurs, bon, dans les budgets, nous avons prévu à peu près entre 75 et 80 000 agents recenseurs que nous devons recruter. Ces agents recenseurs seront recrutés localement, en province, dans les régions, pour qu'il y ait le moins de déplacements possible. Les seules personnes qui vont partir de Kinshasa, ce sont les superviseurs qui auront pour tâche d'aller au niveau de chaque chef-lieu de province et, en fait, de procéder à l'animation des activités à l'intérieur de la province. Et donc, un recensement ne peut être considéré comme un recensement réussi que si les agents recenseurs ont la possibilité d'aller partout, mais alors partout sur les territoires dont il s'agit. Et c'est pour cela que nous avons prévu de mobiliser un effectif très important, 80 000 personnes qui vont sillonner l'ensemble de la République démocratique du Congo. Donc, tout le monde va, il y aura suffisamment d'agents recenseurs pour pouvoir aller dans tous les coins du pays. Donc, que les gens se tranquillisent, nous allons le faire.
Rachel, vous êtes à Isiro, Freddy est à Lubumbashi, Jean est ici à Kinshasa. Nous allons vous accorder la parole 081-890-4339, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct dans cette émission.
Lorsque le jour se lève, toutes les provinces se retrouvent sur la radio de la paix. Journaux en français, Swahili, Chiluba, Kikongo et Lingala. Synthèse de l'actualité africaine et internationale, revue de la presse quinoise, toutes les infos s'écoutent entre 5 et 9 heures. Le meilleur de l'actualité sportive chaque demi-heure, des reportages qui vous donnent la parole, des infos pratiques et de la musique qui réveille. Lorsque le jour se lève, dès 5 heures, Radio Kapi met le Congo à la une.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Rachel, bonjour.
Bonjour, Pierrot.
Vous êtes à Isiro, on vous écoute.
Oui. Moi, je me demande pourquoi notre gouvernement prend vraiment du temps pour faire ça. Ah, on ne peut pas dire que c'est à peine qu'on a compris le mot recensement. Non, ça a toujours existé et tout le monde comprend que c'est un recensement. Il y a autre chose qui n'arrête pas de torturer l'esprit. Est-ce qu'ils attendaient qu'ils puissent avoir la diminution de la population pour qu'ils puissent faire ça? Et bon, je ne sais pas aussi, je me conseille à disant qu'à travers ce recensement qu'on fait, ça permettra aussi au gouvernement de voir le nombre de gens, le nombre de chômeurs dans notre pays. Et il serait mieux qu'ils puissent trouver une solution par rapport à ça. C'est un peu ça.
Voilà. Donc, vous êtes très inquiet. Hein? Beaucoup de gens se sont posé la question, pourquoi avoir attendu jusqu'en ce moment? Bon, bien sûr, c'est un problème au niveau du pouvoir public. Hein? Pourquoi avoir attendu jusqu'en ce moment pour commencer à passer aux opérations d'enquête? Mais dis-moi, vous vous êtes intéressé au chômage. Vous pensez qu'avec ces recensements généraux, ça peut résoudre le problème du chômage à travers le pays? Merci beaucoup, Rachel. Freddy, vous êtes à Lubumbashi, bonjour. Freddy, bonjour. Freddy, bonjour. On a des petits soucis, hein, des lignes avec Freddy qui est à Lubumbashi. Nous allons retourner ici à Kinshasa. Jean, vous êtes avec nous. Bonjour Jean.
Pierrot, bonjour, c'est l'invité. Merci à tous.
Merci beaucoup. On vous écoute, Jean.
Ok, merci d'avoir de m'avoir associé, donné la parole pour cette première émission de l'année 2013.
Mm-hmm. Merci.
Qui commence avec un très bon sujet qui est vraiment intéressant et qui concerne toute la population et le gouvernement. Mais la grande inquiétude est que, comme d'habitude, on commence toujours le projet, mais qu'on ne finit pas dans notre pays. Ça, c'est une manie que nous avons. Et nous allons regretter que ce qu'on a commencé comme projet de recensement, on ne puisse pas le finir. Alors, nous allons demander alors, non seulement au gouvernement, surtout aux parlementaires, parce que nos parlementaires, De cette année-ci, disons, de l'exercice de 2012-2011 jusqu'à 2016, excusez-moi, je ne sais pas, ils vont travailler comme ceux de 2006. Parce que nous avons la crainte qu'on va faire passer beaucoup de bonnes choses et mettre l'accent sur les bagatelles. Le Parlement, en tant que le représentant du peuple, doit parler à notre nom et puis exciter le gouvernement, à mettre en application, disons, ces projets et à chercher les financements nécessaires. Alors, l'invité a parlé d'un nombre des agents recenseurs qui seraient plus de 8 millions de personnes. C'est bien, mais qu'on ne tombe pas dans la piège, disons, de la CENI où les agents recenseurs, disons, au niveau de la CENI, jusqu'aujourd'hui, certains n'ont jamais touché leur dû. Pourquoi? Parce qu'on fait un programme, quand ça arrive le mois de la paix, on n'arrive pas à payer les gens. Pourquoi? Parce qu'un agent a été dévié par, je ne sais pas moi, par quelle voie. Alors, nous allons alors demander à notre État, non seulement de commencer, peut-être l'État a donné 4 modules, 4 étapes à suivre.
Oui,
si vous pouvez d'abord commencer par les 3 premières étapes, les 2 premières étapes qui sont importantes, et puis arriver au niveau de la cartographie, et commencer ça réellement, puisque c'est le fait de faire maintenant. Peut-être au début de 2014, ils commencent dans les recensements profondément, parce qu'ils sont en train de chercher les financements, la cartographie n'est pas encore faite, ainsi de suite. Parce qu'on risquera aussi de dire que voilà, nous avons la cartographie, mais on fait par région. On commence ici, non. Vous pouvez terminer avec les 2 premières étapes, les 3 premières étapes qui sont très importantes avant. Comme ça, on lance les recensements une fois pour toutes dans tous les pays en ayant déjà les moyens nécessaires pour que ne l'arrête plus, parce que nous attendons quand même. Depuis que le dernier recensement, c'était 4 ans avant ma naissance. Ce que je dis, moi, je m'ai recensé. Ce qui n'est pas normal. En tout cas, voilà un peu les quelques contributions que j'avais à donner.
Merci beaucoup, Jean. Vous voulez vraiment participer au recensement, hein? Vous avez peur de mourir sans jamais être recensé un jour. C'est pas quand même normal qu'on ne passe pas un recensement. Merci beaucoup, Jean. Mais dis-moi, vous êtes aussi très inquiet, hein, par rapport aux œuvres inachevées, qu'on commence et qu'on ne finisse pas vraiment, qu'il y ait tout ça mis en œuvre pour qu'on aille jusqu'au bout. Mais aussi la préoccupation, c'est la question sur le salaire, les agents qui doivent être payés, qu'on ne tombe pas dans les pièges des autres activités où les gens ont travaillé et jusqu'à aujourd'hui n'ont jamais été payés. Ça risque de biaiser complètement le travail sur terrain. Je crois, Freddy, maintenant c'est bon. Freddy, vous êtes avec nous. Bonjour. Freddy, bonjour. Ah, désolé. Vraiment là, on a tout souci avec Freddy de Lubumbashi. Nous faisons les caps sur Kananga, au Kassai Occidental. Edgar, bonjour.
Oui, bonjour à tous les auditeurs, en particulier Franck de Vienne, à la scène de Kikuit et docteur Richard de Kassai. Alors, merci Pierrot, merci pour m'avoir accordé la parole.
Oui.
Je suis étonné de souligner que notre auditeur et notre invité parlent de beaucoup de structures déjà qui sont déjà mises en place pour ces recensements, alors que nous, ici, moi, je ne sais pas si ce n'est pas encore mis en place ici à Canaan. Alors, notre invité peut aussi nous indiquer où est ce souci-là ici à Canaan, parce qu'on n'entend jamais parler, M. Pierrot. C'est pourquoi je propose que cette opération commence par le Congolais de l'étranger, parce que ça fait deux fois que ses compatriotes ne participent pas aux élections. Et nous ne voulons pas que cela soit le cas pour les élections, les échéances électorales prochaines. Et puis, nous voulons que cette opération se fasse de manière transparente pour garantir aussi l'unité.
Oui, voilà, on a des petits soucis, on a des petits soucis avec vous, Edgar, votre ligne a des petits soucis, mais du moins l'essentiel de votre message a été retenu. Vous avez d'abord posé la question à l'invité, toutes les structures qui sont déjà mises en place pour les opérations de recensement sont-elles représentées en province? Parce qu'à Kananga, on ne vous a jamais parlé d'une structure qui va s'occuper du recensement, c'est votre première préoccupation. Mais vous posez la question sur les Congolais de l'étranger, moi je peux demander s'ils sont aussi concernés par ces recensements pour leur permettre de pouvoir participer aux élections. C'est ça. Et vous exigez aussi la transparence dans les opérations. Merci beaucoup, Edgar. Mais malheureusement, on n'a pas pu terminer parce que la ligne s'est détériorée entre Kinshasa et Kananga. Raphaël, vous êtes à Lubumbashi au Katanga. Bonjour, Raphaël. Raphaël, bonjour. Raphaël, bonjour.
Oui, bonjour. Quelle est la différence entre la population civile et la population
Oui, s'il vous plaît, Raphaël, on n'a pas entendu vraiment, Vous avez demandé la différence entre quelle population et quelle population?
La population finie et la population infinie. Et laquelle sera recensée?
La population finie et infinie, laquelle sera recensée? Vous avez demandé la différence, oui, s'il vous plaît. Oui, premièrement, Raphaël, il faut qu'on s'entende parce qu'on a des petits soucis. Vous avez demandé à l'autre invité la différence entre la population finie et la population infinie. Et vous voulez savoir quelle est la population qui est concernée par le recensement, c'est ça?
Et la deuxième, qu'est-ce qu'une population statistique?
Une population On va demander à notre invité, c'est trop technique, peut-être qu'il a des éléments de réponse, il pourra vous éclairer. Merci beaucoup Raphaël d'avoir appelé de Lubumbashi à Kananga, c'est Aloïs qui est sur les antennes. Bonjour Aloïs.
Bonjour Monsieur Pierrot et bonjour à notre invité, merci à toutes les auditeurs, à tous les auditeurs de la radio Café.
Merci beaucoup, on vous écoute Aloïs.
Oui Monsieur le journaliste, par rapport au thème qui lance le débat du jour, moi, je pense qu'il y a une prise de conscience du gouvernement congolais qui va pouvoir marquer le début de la volonté politique, si réellement le recensement serait matérialisé. Parce que, comme l'ont dit les auditeurs qui m'ont précédé, dans toute organisation, dans tout groupe ou dans toute famille qui se veut vraiment respectueuse, on commence toujours par dénombrer les membres qui la composent. Et cette hypothèse étant ramenée au niveau d'une entité étatique, oui, l'État ne peut pas se déroger de cette obligation, car c'est à partir de cette obligation-là que l'État saura bien attribuer le rôle de tout un chacun dans ce pays pour orienter notre pays dans le sens du développement. Mais je voudrais alors citer par quelques petites questions à notre invité.
Allez-y.
La première question, c'est que la dite opération de recensement concerne aussi les étrangers qui ont pollué le sol de la RDC. La deuxième petite question, est-ce qu'il y a une loi congolaise qui a prévu une échéance par rapport aux opérations de recensement? Parce que vous nous avez dit au départ qu'il y a le recensement qu'on a jusque là, c'est de 1900 quelque chose que vous avez parlé là, et pourquoi durant tout ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui, 2013, le début même de cette année, le premier jour que nous débattons cette émission,
il n'y a pas encore eu
d'autres recensements où cette opération ne s'est pas effectuée.
Merci Aloïs. Vous avez posé la question, celle de savoir si les opérations concernent aussi les étrangers qui sont sur le sol congolais et puis si cela est coulé dans une loi qui prévoit effectivement le recensement. Nous allons écouter le dernier auditeur de ces groupes, c'est Mathieu qui est à Kananga, au Kassai-Occidental. On reste à la même ville. Mathieu, bonjour.
Oui, bonjour, Monsieur Pierrot.
D'abord,
je pense que le gouvernement qui est censé être responsable dans un pays doit automatiquement songer à organiser le recensement général de sa population. Nous regrettons pour ce cas dans notre pays où c'est depuis 1984 que le premier recensement général de la population a eu lieu. Et on compte faire une deuxième après une vingtaine d'années. Ce qui est regrettable, c'est de voir qu'on compte organiser après une vingtaine d'années le deuxième recensement. Et je ne sais pas si quel district d'habitat on organise des élections dans ce pays sans connaître les chiffres réels de la population. Comment peut-on prendre la disposition pour éviter même l'insécurité dans le pays? Comment peut-on savoir le nombre de ceux qui entrent dans le pays et ceux qui sortent? Pour ceux qui font quoi? Aujourd'hui, le gouvernement, à travers le ministre du Plan, a besoin d'environ 148 millions de dollars pour entamer ce processus à un délai de 3 ans pour l'achever. C'était même prévu pour ce travail de mars à ce mois de janvier 2013. Nous nous posons beaucoup de questions, monsieur le journaliste, à ce sujet. Pourquoi un grand montant plus exorbitant comme ça? Pourquoi 3 ans pour achever ce travail tant qu'il y a des bases qui sont nos villages, localités, la fonction publique, la défense nationale, la police, conditions féminines, genre et enfants, mouvements, chefferies, quartiers et autres, les avenues même. Chacun de ceux que je viens de citer, si on a le chiffre de ces habitants qu'ils gèrent, pourquoi ne pas l'utiliser comme instrument de travail pour leur faciliter le travail?
Merci.
Pour même environ 5 mois au maximum.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mathieu. On n'a plus beaucoup de temps. John, gardez la ligne. Vous êtes le dernier auditeur. On va accorder la parole à notre invité pour répondre à ces quelques préoccupations des auditeurs. Il y a les mêmes préoccupations qui sont revenues, mais on va cibler les nouvelles questions. Et puis, on va revenir à vous, John, pour vous écouter et revenir à l'invité pour conclure, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps qui nous reste.
Parole aux auditeurs.
Oui, professeur, Rachel a parlé du chômage recensement. Il y a Jean de Kinshasa qui est revenu sur, qui s'inquiète aussi par rapport aux œuvres inachevées et les fonds qu'il faut pour payer les agents. Il y a les amis qui ont posé des questions sur les structures, si elles sont déjà représentées en province, si les Congolais d'étrangers sont concernés, s'il y aura la transparence. Il y a question technique sur la population finie et infinie. Et puis, notre ami voudrait aussi savoir si les opérations concernent les étrangers qui sont au pays et puis s'il y a une loi qui coule tout cela. Et Mathieu qui dit pourquoi beaucoup d'argent et beaucoup de temps au lieu de recourir à la fonction publique, au quartier, à toutes les structures qui existent déjà qui peuvent fournir des données dans un temps record.
Merci, ça fait plusieurs questions.
Plusieurs questions, oui.
Oui. D'abord, pourquoi a-t-on attendu si longtemps pour faire quelque chose? Après 1984, il y a eu l'année 1994, où on aurait dû réaliser un recensement. On n'a pas pu le faire. Pourquoi? Si vous vous rappelez bien, on sortait de pillage. 91, 92, 93, c'est un moment où il y a eu même l'hyperinflation dans ce pays. Donc la situation économique, la situation sociale était si difficile qu'il était tout à fait impossible de réaliser un recensement général de la population. On arrive en 2003-2004, on sortait de la guerre de nouveau, impossible de le faire, et donc on arrive maintenant à 2013-2014. Donc voilà pourquoi on n'a pas pu le faire avant, mais le gouvernement est tout à fait conscient du fait que on doit le faire, surtout que dans le programme du gouvernement, le programme d'action du gouvernement 2012-2016, le programme actuel, il y a un volet important sur la lutte contre le chômage. Et si on veut lutter contre le chômage, il faut d'abord savoir quel est l'effectif des chômeurs. Voilà pourquoi le recensement constitue un instrument, un outil de prise de décision, un outil d'exécution du programme d'action même et du gouvernement. Donc on est tout à fait conscient sur le lien entre chômage, lutte contre le chômage, exécution du recensement général de la population et de l'habitat. Et pour le faire, il faut que tout le monde soit motivé, que tout le monde soit bien payé. C'est pour cela que nous avons établi d'abord un budget qui tient compte de tous ceux qui auront à effrayer pour l'exécution du recensement général de la population et de l'habitat. Et donc, on veut éviter la situation des agents qui ne sont pas payés. Toutes les dispositions sont prises pour que tous ceux qui seront recrutés reçoivent leur dû. Il y a, bon, et cela nous ramène à Kananga. Notre ami de Kananga qui signale que jusqu'à présent, il n'y a pas
de une structure qui parle du recensement.
Exactement. Il y a une équipe qui part dans toutes les provinces ce mois de janvier. Quel est l'objectif? C'est aller installer les structures provinciales d'exécution du recensement. Et deuxième mission, aller voir quels sont les atouts et les contraintes de travail dans les différentes provinces de notre pays. Donc, ce n'est pas encore fait en province, mais nous allons donc le faire ce mois. Si ce n'est pas fait ce mois, le mois prochain, ça doit être réalisé. Donc, il y aura des antennes provinciales, ce que nous appelons le bureau provincial du recensement de la population et de l'habitat. On va les installer ce mois ou le mois prochain au plus tard. Les Congolais de l'étranger sont-ils concernés? Non. Le recensement concerne la République démocratique du Congo. En fait, on fait le comptage des personnes vivant en République démocratique du Congo. Et les Congolais et les étrangers. Bien sûr, on va les séparer. Il y aura les Congolais, d'une part, et les étrangers. Les personnes vivant dans les autres pays ne sont pas directement concernées par l'exécution du recensement. Mais on peut prévoir que dans les années à venir, qu'on fasse un recensement des Congolais, mais c'est tout à fait autre chose. Mais pour le moment, il s'agit des personnes vivant en République démocratique du Congo.
Congolais
plus les étrangers. Mais qu'on sache quel est l'effectif de chaque groupe. Il y a effectivement une grande inquiétude pour pouvoir trouver les ressources nécessaires pour l'exécution de ces recensements. Mais comme on l'a dit, la dynamique est en route. Beaucoup de gens, les bailleurs de fonds insistent beaucoup pour que nous-mêmes, les Congolais, que nous prenions aussi les choses en main, que nous montrions que nous sommes intéressés. Le gouvernement a déjà fait un grand pas. Pour cette année, par exemple, pour cette année 2013, le budget que le gouvernement va mettre à la disposition du Bureau central du recensement, c'est 20 millions. Ça, c'est seulement le gouvernement. Alors, comme l'a dit notre ami, les populations qui se retrouvent dans les quartiers, qui se retrouvent dans les villages, peuvent, elles aussi, contribuer en donnant des facilités, l'accueil des personnes qui travaillent pour les recensements, montrer où sont les villages. En fait, participer en facilitant l'exécution des activités. Nous étions au Parlement, comme vous le disiez tout à l'heure. Les parlementaires ont dit, nous, nous voulons donner quelque chose chaque mois pour pouvoir soutenir les recensements. C'est une manière de montrer qu'on est intéressé par l'exécution. Si tout le monde le fait, les 137 millions de budget dont nous parlions tout à l'heure ne vont plus constituer une difficulté.
Mais professeur, là, on est vraiment coincé par une fiscale 45 secondes qui nous reste. Comment on peut alors, en gros, dans 30 secondes, qu'est-ce qu'on peut retenir? Parce qu'on peut revenir là-dessus, dans d'autres émissions, on sent que c'est la question être importante. Mais d'une manière globale, en 30 secondes, qu'est-ce qu'on peut retenir?
On doit retenir que le recensement est une activité incontournable. On peut retenir aussi que aimer la République démocratique du Congo, c'est participer à l'exécution du recensement. Et donc, il faut que nous nous impliquions tous, chacun au niveau où il se trouve, pour l'exécution du recensement général de la population. Et si nous le faisons, ce sera effectivement réalisé.
Merci beaucoup, professeur Paul Zita. On va se retrouver avec les auditeurs. Ça sera le lundi prochain pour une émission en direct. On va s'intéresser au nouveau code des douanes d'assises qui a été voté au Parlement et son impact sur l'amélioration de l'importation et l'exportation. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes le coordinateur technique du Bureau national du recensement. Merci à toute l'équipe qui nous a aidé à produire cette émission. Au revoir à tous.